Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça va mettre la charrue avant les pneus.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là. On va parler Ligue des Champions dans quelques minutes avec Julien Laurence, avec Yoann Crochet. On va parler de Guardiola, on va parler des enjeux du match. On va se poser cette question, est-ce qu'on peut encore inventer des choses aujourd'hui dans le foot? On parle de tactique, évidemment, entre autres. Ce sera tout à l'heure. Et puis la Juve, également au programme, avec Allegri qui reste, même si les supporters en veulent plus. Yoann nous expliquera pourquoi.
Mais Allegri doit avoir des dossiers sur la famille Agnelli Alkmaar, parce que c'est...
Peut-être.
C'est pas possible, quoi, qu'il le garde.
Alors, ce sera tout à l'heure. Dossier arbitrage. Dans le SoFoot mensuel qui sort aujourd'hui, témoignage d'un ancien arbitre de Ligue 1, ancien salarié de la Fédé, homosexuel. Il s'appelle Nicolas Potier. Il est arbitré en Ligue 1, arbitre assistant, qui dévoile les dessous de l'arbitrage français. Alors, je vous conseille évidemment ce papier dans SoFoot qui est absolument incroyable. On y apprend que les guerres entre arbitres vont bien au-delà de ce qu'on pense. Sur fond de dénonciations sur des réseaux sociaux, sur fond de faux profils sur des sites de rencontres. Enfin, c'est vraiment assez à la fois de pathétique et grave. Alors, Monsieur Potier, qui d'ailleurs sera dans l'after la semaine prochaine, il viendra témoigner lundi soir.
Pourquoi on en parle ce soir alors?
Parce que là, c'est sorti aujourd'hui, donc je voulais quand même qu'on en dise un petit mot. Et puis, je pense que ce week-end, ça va rebondir, puisque ce week-end, il y a l'Assemblée générale de la Fédé qui est prévue. Samedi, on va parler de nouvelle gouvernance. Ça va être un des gros sujets de la semaine prochaine.
Ils se sont un peu affolés là en réponse, que ce soit Diallo, Borghini.
Bah, je vais y venir. Bah oui, parce que forcément, on leur met le nez un peu dans le.
Mm-hmm. Borghini, d'ailleurs, est cité à nombreuses reprises dans le.
Voilà, on leur met un peu le nez dans les problèmes. Donc c'est ce que fait SoFoot. Donc
alors, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Potier?
Alors, Nicolas Potier, je vais essayer de vous résumer tout ça parce que c'est un panier de crabes. Bon, Nicolas Potier s'estime victime de discrimination. Mais en même temps, il explique qu'il y a énormément d'homosexualité parmi les arbitres, non assumée, dit-il, et qu'aujourd'hui, faire partie de la communauté gay au sein des arbitres, ça peut aider à aller plus loin, parce qu'il y a des décideurs qui utilisent ces arguments-là pour dire, on va t'aider. Parce qu'en gros, par solidarité,
une sorte de système féodal.
Bah, les décideurs, c'est les gens qui mettent les notes, c'est les gens au niveau départemental, régional, qui gèrent l'arbitrage, qui font monter les arbitres.
Donc le cas de la région Île-de-France aussi.
Voilà, l'ancien responsable de l'Île-de-France s'est fait virer pour ça parce qu'il demandait des faveurs sexuelles à certains jeunes arbitres pour les faire monter. Tout ça est dans le papier de SoFoot. Enfin, cette affaire-là en Île-de-France, on la connaissait.
C'était une affaire.
Voilà. Enfin voilà, je vais pas tout vous dévoiler du papier. Il faut le lire à vraiment tête reposée, mais c'est totalement édifiant. Enfin, ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est en fait une nouvelle affaire à la Fédé. Voilà, parce que on tait tout ça, faut pas que ça se sache, parce que vous comprenez les problèmes, plutôt que les régler, on les cache. Ce qui a inspiré un avis à Thibaut ce soir. Jingle le plat.
Cette saison qui va pas se terminer en queue de boudin.
Joli, c'est
joli. J'ai longtemps qu'on n'avait pas entendu celui-là.
Ouais. Oui, t'as été quand même contrarié par tout ce que t'as lu là.
Oui, parce que bon. C'est à la fois consternant, mais en même temps assez familier. Parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes ingrédients des scandales du sport français, à savoir le paternalisme d'un côté, une sorte de féodalisme un peu archaïque, c'est-à-dire un échange de faveurs basé sur un rapport de domination, de l'incompétence, on le voit dans la manière, dans le système de notation, le système d'évaluation des performances, le système de nomination, et une forme d'impunité aussi à l'intérieur de la fédération, à l'égard de ceux qui ont commis des faits répréhensibles. Et on dresse une sorte de portrait un peu en creux de ce qu'est le sport français. Je vous renvoie à l'affaire Le Gret du début d'année sur la question du harcèlement sexuel. Je vous renvoie à les affaires dans la fédération de patinage, etc., etc. Toutes les grandes fédérations sont sont concernés par ça, avec toujours en point de commun cet entrisme et cet archaïsme du fonctionnement. Et donc c'est quelque chose qui peut être à la fois inquiétant, parce que consternant, ce qu'on y lit, c'est toujours un peu consternant, on se demande comment c'est possible. Mais en même temps, je crois que c'est finalement assez rassurant, parce que ça sort. Parce que ça sort, parce qu'on en parle, parce qu'un grand média comme SoFoot en parle, on fait sa couverture de ce mois-ci, parce que nous on en parle, parce que les choses doivent évidemment changer, et si elles changent, c'est pas complètement un hasard que ça arrive maintenant. Je regardais un peu dans les archives, un peu les grandes histoires de scandales dans le sport. Je suis remonté par exemple aux années 90, bon, cette fois-ci c'était la question de l'affairisme, question des caisses noires et autres. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça qui sont sortis comme ça en cascade au début des années 90 pour une bonne et simple raison, que la France venait d'être désignée comme pays hôte de la Coupe du Monde 98. Et qu'au nom de la Coupe du Monde 98, il fallait nettoyer un peu le sport français. Bon, là, il se passe exactement la même chose avec les JO. Cette fois-ci, c'est plus l'affaire d'argent, c'est les affaires de pouvoir et les affaires sexuelles. Donc, c'est finalement, je crois, plutôt une bonne chose, même si la vérité est toujours très difficile à entendre, très difficile à voir. Mais je crois que maintenant, on est peut-être prêt à l'entendre. Et il se passe finalement dans les grandes fédérations, ce qui se passe dans les grandes institutions. Et je pense notamment à l'Église, par exemple. Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans l'Église. Il y a un rapport très fourni sur ces questions-là. Et toutes les grandes institutions sont touchées. Je renvoie à MeToo, je renvoie au cinéma, je renvoie à la culture, à la politique. Le sport ne peut pas faire l'économie de ce genre de période. Même si je pense que on a touché le fond. Et maintenant, il serait temps de prendre acte de tout ça et de enfin renouveler tous ces gens qui reviennent toujours, hein, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, ce sera enfin renouvelé.
Alors justement, à propos du nom, et avant que Daniel donne son avis, Eric Borghini, donc, qui est le président de la Commission fédérale d'arbitrage, donc qui est l'homme qui chapeaute tout ça, qui était déjà membre du COMEX de la Fédé, qui était déjà au centre de l'affaire Le Graët il y a quelques semaines, a eu une réaction assez dingue en fait. Parce que, alors il dit, il est avocat, hein, alors il dit « Moi, le conseil de mes maîtres n'a jamais été autant d'actualité. Choisir avec qui parler est important. Comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus, puisqu'il a refusé de répondre à SoFoot. » Et il dit: j'avais cru naïvement que SoFoot était un magazine sportif consacré au football et à la promotion de ses valeurs. Enfin, excusez-moi, monsieur Borghini.
C'est justement de dénoncer ce genre
d'acte. C'est ça le paternalisme. C'est te prendre de haut en t'expliquant ce que tu dois faire. Exactement. Et que si tu ne fais pas, et c'est d'une sorte de menace.
Et puis c'est aussi une méconnaissance du fonctionnement des médias. Je veux dire, c'est
une manière de prendre de haut.
Ces gens-là pensent que les médias ne doivent s'occuper que de relayer ce qui leur semble bon à eux. C'est-à-dire faire de la com, mais surtout pas de faire des enquêtes. Borghini, pour lui, il ne fallait jamais dire ce qu'avait fait Le Graët pendant des années, à part dire que tout était formidable. Ces gens-là, évidemment. Alors, j'ai entendu l'avis de Thibaut, oui, là, t'as raison, mais j'ai tellement entendu deux fois répéter qu'il fallait passer à autre chose.
C'est pas passer à autre chose, c'est au contraire ouvrir.
Passer à autre chose par rapport à ces hommes-là.
D'accord.
C'est-à-dire les écarter une bonne fois pour toutes, enlever l'ancien système, tous ces barons locaux qui se tiennent entre eux,
le
qui font leur petite tambouille.
C'est système de parrainage.
C'est du clientélisme.
C'est du féodalisme. C'est-à-dire quand tu as le seigneur qui est propriétaire de son serf et qui a un droit de cuissage.
Mais c'est le fonctionnement qu'il faut changer. Parce que tu peux mettre d'autres hommes, ils rentreront dans le même système. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont élus, pour garder le pouvoir, ils vont continuer à arroser la vieille image qu'on utilisait tout le temps, on va tuer les sacs de ballons. Ils vont distribuer les sacs de ballons, et puis même si c'est pas que ça, parce que parfois c'est pire que ça.
Il y a un élément important, Daniel, dans ces affaires-là, ce qui est commun, c'est la question des réseaux sociaux. Là, il y a notamment un passage, évidemment, je vais pas arriver tout le papier, s'il faut aller l'acheter, ce magazine. Il faut que les gens soient payés. Mais il y a l'omniprésence des réseaux sociaux qui permettent, en fait, une caisse de résonance et une libération de la parole, et qui est essentielle et qui change le rapport de force dans ce féodalisme. Et qui s'est absolument pas fait à cette idée. On en reparle souvent, on en parle avec les joueurs, la question, vous savez, de l'horizontalité du savoir, l'horizontalité de la société. C'est-à-dire que maintenant, le savoir, les rapports de pouvoir, ils sont horizontaux. Chacun parle d'égal à égal. Demain, j'ai envie de parler à Macron, j'envoie un message sur Twitter. Tu vois, c'est ça, l'horizontalité. Donc, la société est devenue horizontale. Or, ces institutions, elles, sont extrêmement verticales. Elles sont quasiment militaires comme organisation. Donc,
c'est d'une cruauté extrême, voilà. Le milieu des arbitres.
Ces institutions verticales sont obligées de se réformer parce qu'elles sont en train de perdre complètement la société sur laquelle elles sont censées exercer une influence et un pouvoir.
On en reparlera donc lundi avec Nicolas Potier qui sera ici avec nous dans l'after. La semaine prochaine, on devrait aussi rester bien à l'écoute. On devrait aussi recevoir Keira Amraoui, normalement, qui sort un livre.
Bien sûr qu'elle va venir.
Donc c'est dans les tuyaux. On ne sait pas encore quel jour exactement. A priori mercredi pour parler foot féminin mardi. A priori, me dit Jérôme Thomas qui s'occupe de tout ça. Et donc l'occasion de revenir sur toutes les affaires du foot féminin cette année.
Oui, t'aurais pas fait une petite boulette comme t'aimes bien faire au sujet d'une affiche.
Une affiche. Je sais pas, peut-être.
Stade de France, France-Gibraltar.
C'est pas. Non, j'ai confondu avec France-Grèce alors. C'est pas non, c'est Gibraltar-France.
Ah, voilà.
Oui, bon, c'est France-Grèce qui est au Stade de France.
Voilà.
On avait corrigé.
Non, on n'avait pas corrigé. Ah, mais quand j'ai perdu un truc, moi je le crois.
Oui, mais Daniel, ça fait 17 ans que nous sommes en direct. Quand tu es en direct, on ne fait pas des montages, nous. On n'est pas là à corriger, a posteriori.
Et quand il se rattrape.
Ben oui, mais écoute,
moi, je corrige après.
J'assume la part
chapeau,
de risque.
Il y a toujours un moment.
Il y a toujours une petite boulette qui traîne.
En 17 ans de direct, il y a forcément un moment, tu sors une merguez, forcément. Donc ça arrive. Voilà. Et tu essayes. Oui, direct, c'est ça.
Non, mais il y a des thèmes. Gilbert, il n'en sort pas.
Très franchement, en 17 ans, s'il y en a eu 10, c'est déjà le bon moment.
Ça m'est arrivé de dire des bêtises.
Gilbert, il n'en fait pas. Sauf ça. Ça, c'est son truc, c'est son obsession. Chapeau, affiche de match, machin.
Alors tiens,
là il y a glissade, il y a glissade permanente.
Ça me permet de vous annoncer qu'on va également, on est au mois de juin, relancer nos fameux chapeaux à la demande générale. On va réorganiser ça.
Franchement, il faut trouver un système
un peu moins. Parce que j'ai pas participé.
Oui, mais il faut trouver un système un peu moins embrouillé que d'habitude. Ces derniers temps, on était un peu confus.
Tu me permets parce que si moi j'ai une faiblesse sur les chapeaux, toi t'as quand même une faiblesse absolue sur cette opération-là, parce que tous les ans depuis 10 ans,
le règlement n'est jamais adapté.
Non, mais là cette année faut qu'on fasse mieux. Puis c'est lui-même qui après quand on démarre le truc nous fout un foin pas possible à pas respecter.
C'est un peu le Djokovic.
Parce que chaque année j'envoie des mails chapeaux, précis sur les critères et les mecs débarquent. Oui, alors moi j'ai envie de mettre lui et personne ne respecte les critères. Alors moi je fais le mail pour rien.
Respecte tes critères.
Peut-être parce que ta façon dictatoriale d'envoyer un mail.
Mais alors dans ces cas-là, ils n'ont qu'à répondre avec d'autres propositions.
La constitution du Réolistan n'a pas été approuvée par le peuple.
Mais dans ces cas-là, ils n'ont qu'à dire non. Dans ces cas-là, ils ont qu'à dire non. Il ne faut pas qu'ils disent oui. Et puis après, quand ils arrivent à l'antenne, ils ne respectent pas les règles.
Regarde, ils ont voté à 99% pour moi. Pourquoi ils ne sont pas contents maintenant?
Non.
Quelle est la capitale du Réolistan?
Non, mais attends. Alors, Thibaut, il n'a jamais participé au chapeau, il a rien fait la police des chapeaux.
Non, mais j'écoute justement.
J'ai écouté
depuis de nombreuses années, j'ai constaté que Daniel
cette année, il ne va pas le faire, ça lui apprendra. On va le mettre hors chapeau.
Mais j'étais déjà hors chapeau, donc ça ne peut pas être pire.
Par contre, au niveau des consultants de l'after, t'es chapeau 1 quand même.
Ah, non, mais ça, ok, mais.
Là, je vous remercie.
Mais je ne suis pas sûr qu'on prenne ses chapeaux du coup.
Ça dépend dans quel ordre, mais.
Tu ne respectes pas les critères.
Allez. Yoann Crochet, Julien Laurence nous attendent pour parler Ligue des Champions. C'est dans quelques instants. La finale sera sur RMC samedi soir, bien sûr, en intégralité. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
RMC, football. Aujourd'hui à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, aujourd'hui à Montpellier, avec RMC.